catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse du Père Directeur.
Merci pour votre fidélité à cette fréquence maternelle, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria. Salutations à vous et bienvenue à ce programme de la catéchèse. Bonjour Père Roger.
Et bonjour Maman Régine. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Comme je l'ai annoncé, nous allons aborder l'exhortation apostolique du Saint-Père.
Oui, dilexité, je t'ai aimé, hein, c'est le thème de l'exhortation apostolique du pape Léon XIV, hein, premier document officiel signé par le pape Léon, et nous allons revenir là-dessus dans cette catéchèse comme promis depuis ce matin.
Merci à l'équipe technique et assurée par Baudelaire Madimba et Parfait Issa. On va prier avant de démarrer les enseignements. Merci beaucoup pour ces chants à l'esprit. Père, vous avez la parole.
Merci beaucoup à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. Merci à Maman Régina qui me donne la parole en ce moment. Exhortation apostolique dilexité sur l'amour, l'amour des pauvres notamment, mais c'est plus que l'amour. C'est plutôt une exhortation qui nous rappelle que Dieu est juste et que nous devons nous aussi être justes les uns à l'égard des autres. C'est un document initié par le pape François. Donc le pape François, durant tout son pontificat, a manifesté une attention particulière à l'égard des pauvres. Hein. Déjà son nom François rappelait Saint François d'Assise, hein, le saint qui était très proche des pauvres. Alors, son successeur, le pape Léon XIV, hein, se situe un peu dans la continuité par rapport à son prédécesseur. Il va signer ce document d'idexité, donc « Je t'ai aimé », qui vient de l'Apocalypse, Apocalypse 3.9, pour montrer que, bon, il est dans la continuité, hein, dans la logique de la continuité, mais aussi pour montrer que lui aussi, il veut absolument en tant que pape demeurer attentif aux pauvres, aux marginalisés et aux plus démunis. De quoi il est question? Alors, le pape part d'abord d'un constat et trouve que il y a des pauvres dans le monde. Les pauvres, les marginalisés, il y a aussi des victimes. Victimes de la violence, victimes de la guerre, victimes de la violence dans la société, comme les femmes notamment. Il y a des cas de malnutrition, notamment les enfants qui souffrent de malnutrition. Alors tout ça, eh bien, c'est ce qui justifie cette exhortation apostolique. Dans cette exhortation, il ne s'agit pas seulement d'un rappel à la charité ou à la générosité à l'égard des pauvres, mais c'est surtout un appel à lutter contre tout ce qui est injustice et tout ce qui marginalise, tout ce qui empêche une grande partie de l'humanité de vivre de façon épanouie. Il faut combattre tout cela. Quelques points importants de cette exhortation. D'abord, par rapport au système économique mondial, comme ses prédécesseurs, depuis notamment le pape Jean-Paul II, et le pape critique le système économique mondial actuel. C'est un système qui ne permet pas aux pauvres de sortir de la pauvreté. C'est un système qui appauvrit les pauvres davantage et, évidemment, qui enrichisse les riches. Les pays qui sont déjà riches s'enrichissent davantage, les pays pauvres sont en train de s'appauvrir davantage. Il y a bien sûr des facteurs aussi internes, comme la corruption. Ça, c'est certainement un élément qui fait qu'il y ait beaucoup de pauvreté aussi dans certains pays et dans le monde d'une façon générale. Mais le pape voit les choses d'une façon plus globale au niveau international. Il considère que le système économique actuel aussi, avec des principes qui sont très, très contraignants, par exemple, vous endettez, vous devez rembourser en suivant certaines conditions, certaines contraintes, eh bien, ça empêche les pays pauvres de sortir de la pauvreté. Et donc, ça marginalise davantage le plus vulnérable et le plus pauvre. Ça pourvisse davantage. Face à cela, le pape nous appelle d'abord à aimer. Aimer les pauvres. Parce que les pauvres rencontrent un pauvre, dit le pape, c'est comme si on rencontre Dieu. Il faut aimer les pauvres, pas la pauvreté, mais les pauvres. Il faut être attentif aux pauvres, tout en sachant que l'attention aux pauvres ne vient pas de nous. Ça vient déjà de l'époque biblique. Dans l'Ancien Testament, il y avait des anawim, des pauvres du Seigneur, et les livres de Siracide. Siracide, notamment au chapitre 4e, parle justement des pauvres, l'attitude qu'il faut afficher à l'égard des pauvres, notamment à l'égard des veuves, des orphelins et des orphelines. Donc depuis, dans la tradition biblique déjà, il y a cette attention aux pauvres. Jésus a renouvelé cela, il a approfondi, surtout dans l'évangile de Luc, là où on voit vraiment que Jésus est venu pour les pauvres, et surtout pour les pauvres, et bien évidemment pour tout le monde, mais l'option préférentielle pour les pauvres est biblique, ça apparaît dans la Bible, et l'Église a toujours exhorté ses fidèles à pratiquer, à ne pas oublier l'option préférentielle pour les pauvres, car c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Aimer les pauvres, c'est un acte de foi. Et d'où le titre « Je t'ai aimé » qui vient de l'Apocalypse, Apocalypse 3:9. Et ça concerne justement les personnes marginalisées, les exclus, pourquoi pas les prisonniers, les malades. Donc à travers ce titre « Je t'ai aimé », le pape voudrait que les pauvres, les marginalisés, les exclus, puissent sentir retentir dans leur conscience la voix du Seigneur qui leur dit « Je t'aime » ou « Je t'ai aimé ». Le Seigneur a aimé chacun de nous, il continue à nous aimer, il aime de façon particulière les marginalisés, les exclus. Et déjà les Magnificat de Marie, n'est-ce pas, en Luc 1, nous montrent comment est-ce que l'Évangile, dans l'Évangile, Jésus annonce une nouvelle ère pour les pauvres. L'ère de la paix, l'ère de la justice pour les pauvres. Il renverse le puissant de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches de mes vies. Donc, il faut absolument vivre ce qu'on appelle l'option préférentielle pour les pauvres, parce que Dieu aime les pauvres, et nous aussi, nous devons aimer les pauvres. Il ne faut pas aimer la pauvreté, mais il faut aimer les pauvres. Mais le pape voudrait qu'on soit un peu plus concret. Notamment, il faut lutter, dit le pape dans cette exhortation, lutter contre l'esclavage, lutter contre la violence faite aux femmes, lutter contre certains maux comme la malnutrition, comme la crise de l'éducation notamment. Il faut l'éducation de qualité, parce que si l'éducation n'est pas de qualité, eh bien, l'homme ne sera pas bien formé et on risque de ne pas pouvoir s'en sortir. Pour s'en sortir, il faut que l'homme soit vraiment bien éduqué, bien formé, de façon qu'il puisse prendre en main son propre destin et le destin des autres. L'accompagnement des migrants, ça c'est évidemment dans les pays du Nord. Et chez nous, on insistera peut-être aussi sur la corruption. Combattre la corruption, parce que la corruption engendre beaucoup, beaucoup de pauvreté dans nos pays. Le pape demande d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas seulement lutter contre les antivaleurs, il faut aussi lutter contre les structures, ce qu'il appelle les structures d'injustice. Et c'est en luttant contre ces structures d'injustice, contre parfois des lois qui sont injustes, qu'on pourra évidemment travailler à la transformation de la société. Voilà, en résumé, ce que je peux dire sur ce texte, hein, qui est un long texte, et que le pape a signé pour montrer qu'il est, il se situe dans la continuité avec son prédécesseur et qu'il voudrait qu'aujourd'hui, chacun de nous, des pauvres, puisse sentir, retentir dans leur conscience cette voix du Seigneur qui leur dit « Je t'ai aimé », Apocalypse 3.8 et 3.9 plutôt. Et les textes, comme je l'ai dit, nous invitent à aimer les pauvres, comme cela apparaît dans la Bible, mais aussi à nous engager pour lutter contre les antivaleurs qui sont à la base de la pauvreté, de la marginalisation, et non seulement la lutte contre les antivaleurs, la lutte contre, aussi contre des structures d'injustice. C'est-à-dire, ça peut être des lois, ça peut être certaines structures de la société qui incarnent l'injustice. Le pape dit, il faut lutter contre tout cela. Merci.
Merci, Père. On respire un peu en musique et on se retrouve juste après. Merci pour ces morceaux de musique, des cantiques. 081-99-66-098. On va rapidement prendre le message de Arsène Ika. Merci pour cette catéchèse, Père. La première question, mon Père, l'accent est mis apparemment sur la charité individuelle au détriment de l'action sociale. Qu'en est-il donc de l'Église elle-même dans sa mission? N'est-elle pas crédible à travers des gestes de proximité? La société moderne étouffe-t-elle l'action de l'Église qui autrefois était archi-présente et puissante universellement, pour ne pas évoquer particulièrement le cas de la RDC?
Bon, les combats, le pape s'adresse aux fidèles et aux hommes de bonne volonté. Et les textes du pape, comme toujours, sont des textes sur lesquels il faut réfléchir, au niveau des diocèses, au niveau des paroisses, au niveau des conférences épiscopales. Donc, les actions que le pape propose, ce sont des actions qui peuvent être individuelles, mais aussi collectives ou ecclésiales, dans un contexte diocésain, paroissial, un contexte communautaire pour les communautés religieuses, et pourquoi pas dans un contexte, dans le contexte d'une conférence épiscopale. La Synco le fait déjà de façon exceptionnelle. Cette lutte contre les structures d'injustice, lutte contre les antivaleurs, eh bien les évêques le font parce qu'ils dénoncent. Ils dénoncent tout ce qui ne va pas dans leurs différents messages.
La deuxième question, le pauvre, vous en aurez toujours. Est-ce un constat fataliste que la pauvreté ne peut être éradiquée ou bien cette phrase établit simplement un lien entre le Christ et les pauvres?
C'est une phrase qui apparaît dans le texte du pape. Hein. Donc il cite ce passage-là de Saint Jean. Mais ce qui est important, c'est que le pape lui-même, en interprétant ces passages, montre comment est-ce que l'homme approche les choses autrement que Dieu. Donc les pauvres, vous en aurez toujours, ça c'est l'autre, ça c'est la réaction de Jésus lui-même Mais de l'autre côté aussi, il y avait l'autre qui... il y avait Judas qui avait une autre approche, un autre regard. Parce que pour Judas, il ne fallait pas dépenser ce parfum-là, il fallait le donner aux pauvres. Jésus dira, les pauvres, vous en aurez toujours. Ça veut dire que les combats, n'est-ce pas, contre la pauvreté, c'est un combat qui va durer autant que le Seigneur ne reviendra pas.
Nous prenons le message de Tania Dalia Kiboko depuis les États-Unis. Bonjour Père, bonjour Maman Régine, bonjour ma radio. La première question, Père, comment le message du pape Léon XIV dans Dilexité éclaire-t-il notre manière de vivre l'amour des dieux au Congo au milieu des réalités comme la pauvreté, les injustices et les divisions sociales?
Bon, c'est un message qu'il faut prendre. Il y a deux niveaux. Moi, je crois que il y a d'abord les niveaux personnels, hein, c'est-à-dire qu'il faut soi-même se laisser interpeller, parce que nous sommes parfois nous-mêmes aussi à la base de ce qui se passe. Et chacun de nous contribue d'une façon ou d'une autre à cette situation malheureuse où l'on voit une majorité qui vit dans la pauvreté, une pauvreté indescriptible, et puis une minorité qui vit dans l'aisance. Est-ce que vous n'êtes pas concerné? Est-ce que quelque part vous n'êtes pas fautif? Le texte du magistère, hein, c'est la parole de Dieu, que ce soit la Bible et la traduction du magistère, il faut les lire d'abord à la première personne du singulier. C'est-à-dire moi qui vous parle, en quoi je suis fautif par rapport à cela. Regardez comment il y a des exclus, des marginalisés, des pauvres. Certains mangent à leur faim, l'autre ne mange pas comme il se doit. L'autre vit en deçà du minimum nécessaire. Est-ce que je n'y suis pas pour quelque chose? Ça, c'est la première chose. Alors, le deuxième niveau de l'appropriation du message, c'est au niveau des antivaleurs contre lesquelles il faut lutter. Il a cité notamment la violence, les injustices, la corruption, donc toutes ces antivaleurs qui sont à la base de la pauvreté. Il faudrait lutter contre cela. Mais au-delà des antivaleurs, il y a aussi des structures d'injustice contre lesquelles il faut lutter. Et la lutte peut être personnelle, mais bon, c'est toujours dans un contexte ecclésial donné. Donc chacun de nous doit faire quelque chose, mais il y a aussi des choses qu'il faut faire ensemble. N'oubliez pas que l'Église vit à l'ère de la synodalité, où il y a des initiatives qu'on peut avoir au niveau paroissial, au niveau diocésain, et au niveau des communautés religieuses, hein, même au niveau des mouvements catholiques, hein, des différents mouvements catholiques.
Quand le pape parle des préférences pour les pauvres, comment pouvons-nous, comme chrétiens congolais, rendre cela concret dans nos paroisses, nos familles et même dans la façon dont nous gérons nos ressources?
Bon, rendre cela concret, merci pour la question. Ça veut dire qu'il faut attaquer le mal à la racine. Et ça, c'est un peu l'esprit de ce texte, hein, d'Ilexité. Il faut attaquer le mal à la racine. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'aider. Vous aidez la personne aujourd'hui, mais demain, il reviendra au même endroit pour mendier. Nous le voyons ici, non loin d'ici, sur... si vous prenez Triomphal, n'est-ce pas? Entre le croisement Triomphal Kasavubu et croisement Wileria Triomphal, vous allez voir beaucoup de pauvres là, hein, des personnes malvoyantes ou non-voyantes, tout ça on les traîne, et puis ils demandent, bon, vous aidez aujourd'hui, demain ils sont là. C'est parce que, bon, c'est déjà bien hein, d'aider, de donner ce qu'on peut donner, mais les causes sont là. Tant que les causes de la pauvreté sont là, eh bien il y aura toujours des mendiants. Alors, voilà pourquoi le pape dit qu'il faut lutter aussi contre ce qu'il a appelé des structures d'injustice. Des structures d'injustice contre lesquelles il faut lutter, c'est-à-dire les causes de cette injustice-là. Il faut lutter contre cela pour que la société puisse se transformer.
La troisième question, dans Dilexité, le pape parle d'un amour vrai et d'une charité authentique. Comment éviter que chez nous, comme ailleurs, la solidarité ne soit juste un geste de circonstance, mais devienne une vraie conversion du cœur?
Oui, ben je pense que la première chose, comme je l'ai dit, d'abord il faut s'approprier personnellement ces documents. Parce que le document du pape d'Ilexité nous invite à une conversion du regard. C'est-à-dire que notre regard sur le pauvre doit changer. Les regards habituels, ça peut être un regard d'indifférence. Il y en a malheureusement. Il y en a qui sont indifférents aux pauvres. Ça peut être aussi parfois un regard de méprise. Donc, il y en a qui non seulement sont indifférents, mais méprisent un peu. Voire même rabrou. Donc ça, ça existe aussi malheureusement. Alors, le regard auquel nous sommes invités en lisant le document du pape, c'est le regard de compassion. Le regard de compassion nous pousse à la charité, c'est-à-dire à poser des gestes ponctuels. Mais les gestes ponctuels ne suffisent pas, parce que les gestes ponctuels, ce sont des solutions temporaires, c'est-à-dire des solutions qui ne soulagent pas à long terme. Ce que vous lui donnez, bon, c'est pour aujourd'hui. Après, demain, il reprend la rue. Il est encore dans la rue pour quémander. Voilà pourquoi, au-delà, n'est-ce pas, de gestes ponctuels qu'il faut poser, parce que nous posons sur eux un regard de compassion, il faut maintenant s'organiser. Et ça, c'est au niveau des églises locales, au niveau des diocèses, des paroisses, pour voir comment ensemble on peut lutter contre ce qu'on pourrait appeler les causes de la pauvreté. Et le pape désigne ça par les structures d'injustice qui engendrent la pauvreté.
Voilà, quatrième question de Tania. Père, en quoi ces messages de Dilexité dépassent les frontières du Congo et interpellent le monde entier, surtout dans une époque où l'amour du prochain semble souvent être étouffé par l'individualisme et les inégalités?
Bon, d'abord, le texte est adressé à l'humanité. Quand le pape écrit, il n'écrit pas pour un pays, il écrit pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et le pape lui-même désigne, c'est la critique qu'il fait du système économique, c'est une critique au niveau mondial. Donc, la critique du système économique mondial. Donc, c'est ça... C'est ça ce qui apparaît dans ce texte-là. Donc, il s'adresse, il parle en tenant compte vraiment du monde entier. En tenant compte du monde entier, pas d'un coin seulement. Et ce qu'il dit se vérifie même aux États-Unis. On sait qu'il y a ce qu'on appelle le capitalisme sauvage, n'est-ce pas? Ce que le pape Saint Jean-Paul II dénonçait à l'époque, le capitalisme sauvage, qui continue encore aux États-Unis, ça existe. Dans d'autres pays du Nord aussi, on sent un capitalisme sauvage, c'est-à-dire à cause de l'argent, n'est-ce pas, même chez nous, d'une certaine façon, à cause de l'argent, eh bien, on peut marcher sur le droit des êtres humains. Ce qui se passe dans l'Est de notre pays, la guerre, mais ça aussi, c'est une vache à lait pour certains. C'est-à-dire, il y en a qui se font l'argent en tuant, en voyant, en acceptant que des milliers de personnes meurent à cause de l'argent. Parce qu'on veut avoir beaucoup plus d'argent, eh bien on investit, on donne des armes à celui-ci ou à celui-là, ils vont tuer et puis après, bon, on exploite les matières premières. Alors, donc tout ça, eh bien, ce sont des pistes pour actualiser les messages du pape dans les différents contextes qu'il y a dans le monde. Alors, pour tout dire, pour répondre à la question, aux questions de Tania, donc c'est un texte qui nous invite à changer notre regard sur les pauvres et avoir un peu plus de courage, parce qu'il ne suffit pas de poser des gestes ponctuels de solidarité ou de charité, mais il faut attaquer le mal à la racine.
081 99 66 098. Bonjour Père. Quand le pape parle de violence basée sur le genre, il est donc d'accord avec le protocole de Maputo où on adopte l'avortement sécurisé? C'est Jacques Moukoko depuis la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus.
Absolument pas. Violence exercée contre le genre. Et donc, c'est pas question de oui à l'avortement, non. Il s'opposera toujours à l'avortement, parce que le fœtus, c'est déjà une vie humaine. Il ne faut pas l'oublier. Mais il ne faudrait pas non plus, à cause de de la situation dans laquelle une personne se trouve. Par exemple, les cas des homosexuels. Il faudrait aussi éviter d'exercer la violence contre eux. Là où ils sont notamment minoritaires, il ne faudrait pas qu'ils soient victimes de la violence. Voilà pourquoi je disais dès le début de cette catéchèse qu'en fait, le pape nous invite à aimer les pauvres, mais pas la pauvreté. Et donc, il faut aimer. Il y a des gens qui sont aussi marginalisés, qui subissent parfois la violence parce que, bon, ils sont homosexuels, ils sont lesbiennes. Donc, nous, les mâles, on ne peut pas aimer les mâles, mais la personne, il faut l'aimer. À l'époque, François le disait déjà. Ce qu'il fait, c'est mauvais, et nous sommes contre cela, mais il reste une personne humaine qu'il faut respecter. Et s'il faut interpeller, il faut interpeller dans le respect.
Bonjour Père et Maman Régine. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour la très belle catéchèse d'aujourd'hui. Je vous suis 5 sous 5. Je n'ai pas de questions. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le frère Samson Nongé depuis la paroisse Saint-Pédis, Kinshasa, Ngiringiri.
Merci beaucoup à notre frère depuis Saint-Pédis, Kinshasa, Ngiringiri.
Toujours à Saint-Pédis, c'est Félicien Katumba. Qui est vraiment pauvre, Père Roger? Quelle catégorie des hommes pouvons-nous classer des pauvres?
Le concept pauvre est parfois un concept qui peut être ambigu aussi. Bon. Vous savez, dans un contexte beaucoup plus large, on peut dire le plus grand pauvre, c'est celui qui n'a pas Dieu. Celui qui ne croit pas. Ou bien qui croit, mais qui vit loin de Dieu, ça c'est le plus grand pauvre. Parce que la plus grande richesse, c'est Dieu. Et donc, qui n'a pas Dieu, il est vraiment très pauvre. Ça c'est dans un contexte large. Mais dans l'exhortation du pape, le pauvre, c'est un concept à connotation sociale. Et donc là, on ne discuterait pas là-dessus, parce que parfois quand on discute, on commence à étendre le regard, et on oublie, n'est-ce pas, les pauvres du point de vue social. C'est vrai qu'il y a plusieurs connotations que peut revêtir le concept pauvre, mais dans le document du pape, il s'agit de la dimension sociale de la pauvreté. Donc il s'agit de ceux qui sont marginalisés, exclus, les pauvres, qui n'ont pas accès à certains privilèges auxquels d'autres ont accès. Les pauvres, les enfants des pauvres étudient parfois difficilement, n'étudient pas dans des écoles qui sont viables. Et donc, voyez-vous, parfois, ils vivent en deçà du minimum nécessaire. Donc, le logement pose problème, la nourriture pose problème. S'il est malade pour se faire soigner, c'est difficile. Eh bien, il s'agit de ces pauvres-là. Donc, ça a vraiment une dimension sociale, le concept pauvre.
N'est-ce pas que c'est impossible de finir toute la pauvreté ou éradiquer la pauvreté dans le monde, m'inspirant à la parole du Christ, les pauvres, vous en aurez toujours.
Oui, c'est-à-dire que les combats, nous en aurons toujours jusqu'à la fin des temps, mais il faut lutter. Le combat va durer jusqu'à la fin des temps, combat contre la pauvreté, contre les injustices. Ça va durer jusqu'à la fin des temps, certainement, parce que le cœur de l'homme est ce qu'il est. Le cœur de l'homme ne sera pas converti totalement. Mais nous voulions quand même que ça soit converti le plus possible.
N'est-ce pas que la pauvreté spirituelle est pire que celle que la pauvreté physique?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que bon, celui qui n'a pas Dieu, c'est le plus pauvre de tout. Parce qu'il est loin de Dieu. Étant donné que la plus grande richesse, c'est Dieu, eh bien, qui n'a pas Dieu est très pauvre. Mais, comme je dis, dans le texte du pape, il s'agit de la pauvreté au sens social du mot.
081-99-66-098. Bonjour Père. Jésus était élevé prêtre selon l'ordre de Melchisédek. C'était dans quel temple en Israël? C'est Marcel depuis Saint-Marc.
Ah. Jésus prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Bon, il n'a pas reçu d'ordination sacerdotale, hein. On ne l'a pas oint comme prêtre, comme tel, mais lui, il est Messie. Alors, chez les Juifs, le Messie avait toutes ces dimensions-là. Il y en a qui croyaient au Messie sacerdotal. C'est-à-dire que quand le Messie viendra, il va entre autres faire des réformes au temple. Parce que les grands prêtres dirigeaient le temple. C'est lui le chef suprême du temple. Alors le Messie devrait être aussi prêtre. Et donc ça va de soi. Si Jésus est Messie, donc il est prêtre. Il est même grand prêtre. Voilà pourquoi Satan avait suggéré à Jésus les miracles du temple qui confirmeraient la dimension sacerdotale de la mission de Jésus. Donc vous allez au-dessus du temple, au pinacle du temple, vous vous jetez en bas sans vous faire fracturer. Alors c'est que vous êtes des messies, on va vous applaudir comme messie. Et c'était comme ça. Les juifs disaient que le messie qui sera accueilli comme tel messie au temple, il doit faire un miracle au temple. Et parmi les miracles, c'est se mettre au-dessus du pinacle du temple et se jeter en bas, sans se faire fracturer. Alors là, on va vous accueillir comme messie et prêtre. Mais il y avait aussi le messie prophète et puis messie politicien. Donc ça sont les plusieurs, quelques connotations du messianisme à l'époque de Jésus. Messianisme politique, messianisme sacerdotal et puis messianisme prophétique. Alors Jésus est prêtre, prophète et aussi roi, un messie roi. Donc derrière le messianisme politique se cachait le concept messie roi. Et Jésus, évidemment, il est roi, prophète et puis prêtre. Mais la particularité de notre messie Jésus, c'est qu'il est le messie crucifié. Bien qu'il soit roi, prophète et prêtre, il est le Messie crucifié qui nous a sauvés en mourant sur la croix.
Sylvain Pouyébé, depuis la paroisse Notre-Dame médiatrice cathédrale de Matadi, nous pose trois questions. La première, quelle forme d'injustice observe aujourd'hui en RDC et comment le message du pape Léon XIV nous aide-t-il à y faire face?
Bon, il y a plusieurs formes d'injustice, injustice dans plusieurs milieux, dans des familles, dans des milieux professionnels, dans la société en général, donc dans plusieurs domaines, on peut identifier les différentes formes d'injustice. Alors, les messages du pape nous invitent d'abord à changer notre regard sur l'autre, à aimer. Qui rencontre les pauvres rencontre Dieu. Dilexité, c'est-à-dire « je t'ai aimé ». C'est ce que Jésus redit à chacun de nous à travers l'exhortation du pape et c'est ce que chacun de nous doit dire aux autres, spécialement aux pauvres. L'amour. Il y a d'abord l'amour, ça c'est ce qui est important. Quand on aime, eh bien, on va chercher le bien de l'autre, alors on va travailler pour que le bien de l'autre soit garanti.
La deuxième question, comment les chrétiens congolais peuvent-ils vivre concrètement la justice et la solidarité dans leur communauté selon l'appel du pape Léon XIV?
Bon, les papes nous situent aussi dans une perspective de lutte. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, la lutte contre les structures d'injustice. Et voilà pourquoi il faudrait que chacun se pose la question de savoir si, quelque part, vous n'êtes pas vous-même à la base de certaines injustices, là où vous travaillez, là où vous vivez, vous devez d'abord vous poser cette question-là. Parce que le combat est d'abord au singulier, à la première personne du singulier. Est-ce que moi, est-ce que vous qui m'écoutez, là où vous vivez, en famille, au boulot, partout où vous vivez, dans votre paroisse, votre CVB, est-ce que vous n'êtes pas à la base de certaines injustices. Et les injustices prennent parfois plusieurs connotations dans notre société. Ça peut être aussi le tribalisme. C'est une forme d'injustice. Le favoritisme, c'est une forme d'injustice. Clientélisme, ça signifie qu'il y en a que vous sacrifiez pour des raisons qui sont inavouées. Ça, ce sont les différentes formes d'injustice qu'on peut constater dans notre société. Et il faut lutter contre tout cela.
La troisième question, toujours de Sylvain Pouyébé. Pourquoi la lutte contre la corruption, la pauvreté et l'exclusion sociale est-elle un devoir de foi pour les catholiques en RTC?
Parce que ça a déjà commencé à l'époque de Jésus. Jésus lui-même, comme dit le pape dans Dilexité, Jésus s'est identifié aux pauvres. Et c'est vrai, il s'est identifié aux pauvres. Il est né dans des conditions très pauvres. C'est l'enfant de Bethléem qu'on a déposé dans une mangeoire, à peine né. Il s'est identifié aux pauvres. Alors, dans notre contexte, réponds un peu à la question, Marie.
Il dit ceci, pourquoi la lutte contre la corruption, la pauvreté et l'exclusion sociale est-elle un devoir de foi?
Ah oui, devoir de foi, oui. Ça, le mot que je cherchais. Mais c'est parce que ça commençait dans la Bible. Ça fait partie de la révélation, comme dit le pape dans les documents. Que c'est pas seulement, en fait, ne pensons pas que j'aide les pauvres parce que je vais poser un geste. Un geste de charité, non. Le pape dit, c'est un acte de foi, parce que ça fait partie de la révélation. Donc déjà, dans la Bible, hein, je l'ai dit au début, qu'on voit que déjà dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de respect pour les pauvres, notamment les veuves, les orphelins, les orphelines. Siracide 4, de 1 à 10. Donc il y a déjà cela. Il y a ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament les anaouim, c'est-à-dire les pauvres du Seigneur, et qui ont un statut social particulier. Siracide ira jusqu'à dire que, attention, si le pauvre est maudit, hein, c'est-à-dire que tu l'insultes, tu le rabroues, ou bien tu le méprises, s'il te maudit, son créateur va l'exaucer. C'est dit dans Siracide 4, de 1 à 10. Que si vous méprisez le pauvre, si le pauvre te maudit, son créateur va l'exaucer. C'est dit. Alors voilà pourquoi, étant donné que dans la Bible déjà, il y a cet aspect qui est très important, l'option préférentielle pour le pauvre. Et dans le Nouveau Testament, ça continue. Je citais les Magnificat de Marie, qui c'est un chant d'espérance pour les pauvres. Donc, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il élève les humbles et renverse le puissant de leur trône. Et donc, tout ça, ça apparaît dans les évangiles. Et Jésus lui-même s'est identifié aux pauvres. Et puis, durant tout son ministère, il s'est montré proche du pauvre. Voilà pourquoi ça devient un acte de foi. Parce que, étant donné que ça fait partie de la révélation, eh bien, ça fait partie aussi de notre foi.
081-99-66-098. Nous prenons le message des Pacifiques depuis la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation à Bounia. Ici, en Ituri, la guerre est la cause de pauvreté de plusieurs déplacés ayant fui la guerre dans des territoires qui habitent actuellement dans des camps des réfugiés à Bounia. Ils vivent grâce aux aides des ONG qui les assistent occasionnellement avec des produits de première nécessité. Comment pourrions-nous aider ces déplacés à retrouver leur stabilité sociale loin de leur village d'origine où la guerre continue à faire rage?
Bon, là, évidemment, chacun peut faire ce qu'il peut. Hein. Nous saluons notre frère qui nous écrit à partir de Bounia. De Bounia, merci et nous saluons tous ceux qui nous suivent là-bas. Il y a des réfugiés, des victimes de la violence, de la guerre, tout ça. Il y a ce que chacun peut faire dans la mesure du possible, mais il y a aussi les combats de notre Église. Notre Église est au four au moulin à travers la Cinco. Donc il y a des initiatives par-ci par-là pour le dialogue, pour le pacte social. Et tout cela, ça devrait nous amener à la paix pour que la guerre cesse. Donc ça, c'est ce qui peut être fait au niveau de l'Église, à travers la Cinco, à travers nos évêques, mais chacun de nous doit s'impliquer par la prière. Il faut prier pour la paix, prier pour tout ce qui serait cause de la pauvreté. Il faut aussi, dans la mesure du possible, poser des gestes concrets au niveau personnel hein, pour faire ce qu'on peut faire. Nous qui sommes à Kinshasa, il y en a qui le font déjà, certaines paroisses. Donc vous avez des biens, hein, des habits, mais pas des habits usés, des habits qu'on peut encore porter, des chaussures, pas des chaussures usées, mais des chaussures qu'on peut encore porter. Il y a lieu d'amener cela dans votre paroisse il y a les services de Caritas qui peuvent mettre tout ça ensemble et puis envoyer dans l'est de notre pays. Donc ça, ce sont des choses que chacun peut faire dans la mesure du possible. Mais il y a les combats d'ensemble qui nous dépassent. Et là, ce sont des évêques qui prennent ça à bras le corps pour essayer de faire ce qu'ils font pour que la paix revienne dans notre pays.
081-99-66-098, nous continuons à vous recevoir vos différentes préoccupations. Olivier Matendo depuis la paroisse Sainte-Claire à Makala. Bonjour Maradieu, ainsi que au père directeur et maman Régine. N'est-ce pas que dans un pays où tout le monde est riche, il n'y aura pas d'équilibre social?
Où tout le monde est riche. Mais on peut pas être riche au même niveau. Hein? Sa question est très importante. Vous voyez, dans notre pays, on risque de croire que pour être bien, il faut être millionnaire. C'est parce que la classe moyenne est à peine visible. Or, ce que nous voulons, c'est ce que nous cherchons. Nous ne cherchons pas qu'il y ait beaucoup de milliardaires ou de millionnaires. Ce que nous voulons, c'est la classe moyenne. C'est-à-dire des gens qui, sans avoir des millions de dollars, mais ne souffrent pas de la pauvreté. Ça existe aussi. Chez nous, c'est à peine visible. Mais si vous allez dans les pays du Nord, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de millionnaires, mais les gens vivent bien. Ils vivent bien sans avoir des millions. C'est-à-dire qu'il a son salaire qui lui permet de nouer les deux bouts du mois. Il revient à la maison à la fin du mois. On vire son salaire à la banque. Il peut retirer, il fait quelques provisions, il achète ce qu'il peut acheter, il garde une partie à la banque, il peut payer sa maison. Donc, en fait, la classe moyenne, des gens qui vivent bien sans avoir des millions dans des banques. C'est ça, c'est que le combat, en fait, c'est à ce niveau-là. Parce que comme il dit, bon, si tout le monde est milliardaire, bon, d'ailleurs, c'est impossible. Mais la classe moyenne doit être majoritaire. Il ne faudrait pas qu'on ait ceux qui sont aisés, qui ont des millions, qui sont minoritaires, et puis les pauvres sont majoritaires. Parce que ces pauvres-là qui sont majoritaires, à la longue, deviennent une menace. Une menace d'où nous avons tout ce que nous avons, n'est-ce pas? Des braquages, des mouvements de Kuluna. Ça, c'est la révolte des pauvres, en fait. Si on veut voir des choses du point de vue sociologique. Alors voilà pourquoi c'est ce qu'on veut. Si on lit les messages du pape et on fait ce que le pape nous demande, de lutter contre les structures d'injustice, tout ça, on arrivera à l'émergence de ce qu'on appelle la classe moyenne, qui doit être majoritaire. La classe moyenne doit être majoritaire, c'est-à-dire des gens qui sont bien. Il fait son travail et puis à la fin du mois, il reçoit un salaire, pas un salaire de misère, mais un salaire qui lui permet de nouer le deux bouts du mois. Il n'a pas besoin d'aller voler. Il n'a pas besoin d'aller faire n'importe quoi pour avoir l'argent parce que son travail lui permet d'être rémunéré de façon juste.
La deuxième question, en s'inspirant de l'évangile où Jésus avait multiplié les pains, nous remarquons que plusieurs personnes n'avaient pas de quoi manger sauf un jeune garçon. Cela prouve que la majorité des gens qui suivaient Jésus étaient pauvres.
Il y avait la pauvreté déjà à l'époque de Jésus. Ça, c'est vrai. C'est clair qu'il y avait déjà la pauvreté. Parce que la situation, quelle était la situation sociale à l'époque de Jésus? D'abord, les riches. Qui étaient riches? Les riches, c'est d'abord les politiciens de l'époque. Les représentants de l'empereur, c'est-à-dire Pilate et ses prédécesseurs et successeurs, ils avaient des moyens conséquents. Donc, ils étaient riches. Les Hérodiens étaient riches, c'est-à-dire la dynastie hérodienne qui était encore au pouvoir. Vous avez Hérode Antipas, vous avez Hérode Philippe, Archélaus, et leur famille, ils étaient extrêmement riches. Vous avez les grands prêtres. Les grands prêtres étaient riches avec leur famille, ce qu'on appelle l'aristocratie sacerdotale. Ils étaient riches, ils vivaient du temple. Il y avait beaucoup d'argent autour du temple. Il y avait des offrandes, tout ça. Il y avait même des services des changeurs au temple. Et ça, c'est l'argent qui finissait dans des poches des familles sacerdotales. Et je parle des grands prêtres et puis de certains prêtres influents qui étaient aussi très riches, mais pas tous les prêtres. Il y avait les notables, des propriétaires de terres qui étaient aussi riches. Et après cela, il n'y avait pas tellement la classe moyenne. Et c'est ça le problème. Donc le problème que nous avons actuellement, c'est le problème de l'époque de Jésus. La classe moyenne qui est à peine visible. Vous avez une minorité extrêmement riche et puis beaucoup de pauvres. Ça, c'est à l'époque de Jésus. Voilà pourquoi Jésus, en fait, quand on dit les foules suivaient Jésus, c'était des pauvres. C'était des pauvres. Donc, et parmi eux, il y avait des malades. Il y avait des gens qui vivaient sous l'oppression économique. L'oppression économique ou politico-économique à l'époque de Jésus, ce sont les impôts. Parce que tout le monde doit payer l'impôt. Que vous travaillez ou pas, vous devez payer l'impôt. Donc ça, c'était la corde au cou. Et ça appauvrissait davantage à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, l'impôt, ça dépend de votre revenu, n'est-ce pas? On dit, si vous avez un salaire élevé, bon, l'impôt aussi est élevé. Si le salaire est bas, bon, l'impôt aussi tient compte de ça. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas, à l'époque de Jésus. Donc, vous travaillez ou pas, vous avez vieilli ou pas, vous êtes jeune, vous êtes très vieux, tout le monde paye l'impôt de la même façon. Et c'était une contrainte sur le plan social qui était si difficile à supporter que certains voulaient même se révolter à cause de l'impôt. Parce qu'ils sont pauvres, mais l'empereur envoie ses agents pour prélever, n'est-ce pas, les taxes, pour leur demander à cette population pauvre de payer l'impôt. Voilà pourquoi dans l'Évangile, il y a des questions qu'on pose à Jésus. Est-il juste de payer l'impôt? Jésus dit, mais eux-mêmes ne payent pas l'impôt. Mais bon, nous devons quand même payer. Donc, voilà, ça c'est la situation sociale à l'époque de Jésus. Et donc, la plupart de ceux qui le suivaient faisaient partie justement de cette majorité pauvre de l'époque de notre Seigneur.
Pourquoi les femmes ne venaient pas poser des questions à Jésus historique? Car dans plusieurs évangiles, on nous dit... un exemple, un homme ou un jeune homme s'approcha de Jésus pour lui demander que faire pour hériter le royaume des dieux.
Bon, mais ces personnages-là sont anonymes. On ne dirait pas que c'est un homme. Même si on dit que c'est un homme, mais comme il est anonyme, c'est qu'il représente tous les disciples du Christ, les hommes comme les femmes. Là où on cite les noms, bon, on comprend que si c'est le nom d'une femme, on dit que c'est une femme. Si c'est le nom d'un homme, on dirait que c'est un homme. Mais là, on ne cite pas les noms, on dit seulement quelqu'un. C'est comme l'évangile d'hier. Quelqu'un dans la foule dit, partage, dit à mon frère de partager notre héritage. Ça pouvait être aussi une maman. Évidemment, la lecture des biblistes, ceux qui interprètent sont souvent des hommes. Tout de suite, on est influencé par nos préjugés. On dit, bon, c'est un homme. Mais ça peut être aussi une femme. Parce qu'on dit, quelqu'un dans la foule demanda à Jésus, dit à Jésus, est-ce que tu ne peux pas dire à mon frère de partager son héritage avec moi? Donc ça peut être aussi une femme, parce qu'on dit que c'est quelqu'un. Et donc, les textes bibliques, parfois, nous présentent plutôt des personnes sans nom qui s'adressent à Jésus. Et ces personnes-là ne représentent pas que les hommes, ils représentent aussi les femmes.
On termine par ce message de David de Coco depuis Bukavu, paroisse Mater Dei. Bonjour Père Directeur, bonjour Maman Régine. Dans Luc 23, 29, Jésus dit, « Car voici venir le jour où l'on dira, heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté et le sein qui n'ont pas nourri. » Ici, Jésus voulait dire quoi?
Eh bien, c'est la littérature, le genre littéraire apocalypse, hein, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui pensent que c'est une métaphore qui voudrait parler des pécheurs. Des gens qui se sont alourdis, n'est-ce pas? Alourdis dans le péché. C'est une métaphore, d'après certains, qui pensent que Jésus voulait faire allusion à ceux qui sont des pécheurs. Qui sont vraiment dans le péché et qui ne veulent pas s'en sortir. Bon, ils ressemblent aux femmes enceintes, c'est-à-dire il y a une certaine lourdeur spirituelle, si bien que, bon, si c'est l'enlèvement, bien vous devez monter au ciel. Alors les péchés deviennent comme une sorte de pesanteur, n'est-ce pas, qui vous empêche de connaître cette élévation, cet enlèvement qui vous conduit au ciel.
Merci Père, un dernier mot.
Mais la joie de continuer à servir devant ce micro. Remerciements à tout le monde, à tous ceux qui ont appelé de l'extérieur du pays, des États-Unis et même du Congo profond, comme de Bunia et tant d'autres milieux. Un grand merci à tous et surtout, nous sommes très heureux de découvrir aujourd'hui ces documents du pape, hein, Dilexit Te, je t'ai aimé. Hein, donc, les papes voudraient que nous puissions nous rappeler que le Seigneur nous aime. Ils aiment particulièrement les pauvres et nous devons faire autant aussi. Aimer les pauvres, c'est les aider de façon ponctuelle, mais aider les pauvres aussi, c'est lutter contre les causes de la pauvreté. Ça, c'est vraiment le résumé de ce texte du pape. Nous sommes appelés à poser des gestes ponctuels, d'abord à changer notre regard, à aimer les pauvres. Ça, c'est un de deux, poser des gestes ponctuels pour les aider autant que faire se peut, mais au-delà des gestes ponctuels, il faut lutter contre les causes de la pauvreté.
Merci Père pour ces enseignements. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission, nos fidèles auditeurs, auditrices. Grand merci à vous pour la fidélité. Merci aussi à l'équipe technique qui était assurée par Baudelaire Madimba et Parfait Issa. Un mot de prière.
Volontiers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Seigneur, nous te disons merci pour ce moment important que tu viens de nous accorder, au cours duquel nous avons réfléchi sur ce message que nous lance le Saint-Père, le pape Léon XIV, et sur la pauvreté, sur le pauvre. Donne-nous de jeter, de poser sur nos frères et sœurs en difficulté. Donne-nous de poser sur eux un regard de foi, un regard de respect, mais surtout un regard de compassion. Chaque fois que nous serons face à la souffrance humaine, Seigneur, donne-nous d'agir et de réagir comme toi, tu faisais dans l'Évangile. Donne-nous ton cœur plein de compassion. Donne-nous surtout ton esprit, l'esprit de sagesse, de force, pour que nous puissions lutter contre les causes des injustices et de la pauvreté. Veille sur les malades, sur les prisonniers, toi qui aimes les pauvres. Veille sur tous ceux qui souffrent, ceux qui sont blessés dans leur cœur. Veille sur les victimes de la guerre. Veille sur les victimes de l'insécurité. Accorde ta protection à tes enfants, à tes fidèles. Et par l'intercession de ta très sainte mère, répands ta bénédiction sur chacun d'eux. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.